Méditerranée ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Il y a ceux rares qui humilient, se moquent d'une de vos rédactions à voix haute devant toute la classe. Il y a les autres qu'on oublie dans le flot des années qui défilent. Et puis il en reste un professeur qui nous a marqué, parfois deux pas plus, dont on garde en mémoire une phrase, un geste, une main tendue. Pensez-y un instant, les voisins, et le visage de cet enseignant pourrait se rappeler à vous. Vous n'aurez peut-être même pas besoin d'y réfléchir. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux héros de notre enfance, nos instituteurs, enseignants, professeurs, qui un jour nous ont ouvert la porte d'un autre monde, un monde où on commence à exister sans les parents et où le regard bienveillant d'un prof nous fait grandir. Avec nous aujourd'hui pour en parler, il tente tant bien que mal d'en être un de ces professeurs inspirants et cela semble plutôt réussi. Lucien Marbeuf, bonjour.
Bonjour et merci.
Vous êtes instituteur dans une école primaire parisienne, vous enseignez actuellement en CM2, vous gérez un blog aussi, Institut Humeur, dans lequel vous postez vos humeurs et vous avez publié Vie ma vie d'instit, récit d'une année scolaire au rythme de votre classe, un hommage à vos élèves et à votre métier. Nous serons aussi en ligne avec Mylène Moisan, journaliste canadienne qui nous contera des histoires de profs inspirants là où elle vit, au Québec. Et nous joindrons également Vincent Rémy, rédacteur en chef à Télérama, hebdomadaire culturel. Et non, ce n'est pas une star acclamée sur le tapis rouge de Cannes, ce n'est pas non plus une équipe de foot accueillie par ses supporters à la sortie d'un stade, mais c'est un professeur de sport qui prend sa retraite après 38 ans de carrière, accompagné vers la sortie par 700 collégiens qui lui font une vraie aide d'honneur. On est en France, près de Dijon, en Bourgogne. La vidéo a été visionnée près d'un million de fois sur Facebook, très commentée, on va d'ailleurs la poster sur notre page, les voisins. Je vous lis un des commentaires sur cette vidéo. Il devait faire partie de ces enseignants rares qui marque et laisse des empreintes indélébiles. Lucien Marbeuf, vous aimeriez vous être célébré comme ça le jour où vous prendrez votre retraite ?
Je pense que la plupart des enseignants aimeraient avoir cet hommage final. J'aimerais également savoir comment a pu vivre, comment l'enseignant a pu vivre les choses, parce que je me mets à sa place, il a dû être très 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 ému. Et puis je suis assez content que ce soit un professeur de sport. Je trouve que c'est très valorisant. C'est un métier qui est parfois un peu mis en marge des autres, on va dire,
oui,
un peu séparé,
par
rapport aux autres disciplines. Et là, que ce soit lui qui soit à ce point acclamé comme ça par les élèves, je trouve ça un beau retour des choses.
Vous enseignez depuis 12 ans, mais le métier d'instituteur n'était pas une vocation au départ ?
Non, pas franchement, non du tout. Je me destinais un peu à autre chose, puisqu'à l'origine j'ai fait des études de cinéma, donc pas grand chose à voir. Encore que j'ai fini par trouver des points communs à force de chercher, mais je ne me destinais absolument pas à l'enseignement, et c'est vraiment le hasard qui m'y a mené.
Quel point commun avec le cinéma ?
Je pense le fait de tenter de passer des choses, d'être un passeur, voilà.
Comme un comédien finalement passe aussi aux personnes qui vont le regarder. Pourquoi vous avez lancé ce blog Institut Humeur en 2010, un blog où vous racontez votre quotidien d'instituteur ?
Précisément parce que je ne me destinais pas du tout à ce métier et que quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans une classe, j'ai découvert un métier que je ne soupçonnais absolument pas. Alors que, un peu comme tout le monde, j'arrivais avec mes représentations d'ex-élèves et je me suis rendu compte assez rapidement, et ça s'est pas démenti sur la durée, qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses que je sous-estimais, que je mésestimais ou que je méconnaissais.
Par exemple, dans
tout ce qui est l'organisation, la gestion du temps, on a un petit peu tous tendance à penser, sous prétexte qu'on a été à l'école, que c'est bon, professeur, on connaît, on a bien vu, on en a eu plein en face de nous. Et par exemple, on a beaucoup de mal à imaginer ce que c'est que le métier de professeur en dehors de la classe, puisqu'on a connu, nous, que le côté classe, alors que c'est la partie émergée de l'iceberg. Or, ce qu'il y a de très intéressant aussi dans ce métier, c'est tout ce qu'il y a avant et après la classe, en termes de préparation, en termes de conception, en termes d'interaction également avec les collègues, en termes de réflexion autour des élèves, parce que c'est une part très importante, un peu invisible, réfléchir aux élèves, penser aux élèves et... Voilà, tout ça, c'est très important.
C'est un monde qu'on connaît peu, finalement. Je vous propose de partir à la rencontre d'une enseignante très appréciée dans un collège du 13e arrondissement de Paris, le collège Thomas Mann. Elle s'appelle Isabelle Metzinger, sa matière l'anglais. Alice Milo, notre reporter, s'est glissée dans sa classe de 4e.
Good morning.
Good morning.
Good morning. Good morning.
Good morning,
Nicolas. Good morning. Good morning. Come on, everyone. School things on the table. Bon, alors, le numéro 2, on y va. 1, 2, 3, on se tait. Chut, concentration. C'est parti.
I saw John last night.
Très bien, so.
Paul was sleeping.
Donc, c'est le prétérit en BPCNG, d'accord? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que les élèves de la classe étaient en train de faire? Paul was sleeping, the boys were fighting, the girl was eating chewing gum. When, suddenly...
Mrs.
Bones.
Gaming.
Gaming. Ok, donc là, on a une action qui a été interrompue au prétérit de ça. On continue.
Elle enseigne très très bien. Plusieurs fois, elle m'a laissé des chances, plusieurs fois quand je m'emportais, tout ça. C'est pas tous les profs qui auraient fait ça. Par exemple, il y avait un cours où j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait. J'ai été un peu insolente. Après, à la fin du cours, on a parlé tranquillement. Et depuis ce jour-là, je sais que je me suis bien tenue en classe. Par exemple, ça, mon prof de français, il m'aurait viré direct, lui. Elle, par exemple, quand elle va nous dire un truc, elle va pas nous le dire agressivement, elle va nous le dire calmement. Par exemple, si on bavarde, elle va dire bah, j'ai l'air de bavarder. Alors que si c'est notre prof de français, il va nous dire direct ça, en fait. Madame Metzinger, en fait, elle laisse plusieurs chances aux élèves et moi j'aime bien ça. C'est pas tous les profs qui font ça en fait.
Quand des personnes ont une mauvaise note, bah, elle met toujours courage et elle nous laisse pas tomber. Je sais qu'elle a confiance en moi et j'ai pas envie d'enlever cette confiance.
De la décevoir ?
Oui.
Elle place aussi beaucoup d'espoir en nous. Par exemple, moi j'avais du mal à m'exprimer au début d'année et là ça va mieux.
On sent qu'elle travaille beaucoup pour nous parce que déjà elle nous a organisé un voyage en Angleterre.
Enfin, c'est pas tous les profs qui nous auront organisé un voyage, c'est beaucoup de démarches à faire, tout ça.
Pour le professeur.
Oui, pour le professeur. Hein. Mais nous, en fait, on a presque rien à faire, tout ça. Moi, je trouve ça gentil, tout ça. En plus, le pire, c'est qu'elle y met tout son cœur à faire ça pour nous, tout ça. Elle sait que ça va nous faire plaisir, du coup. Moi, je trouve que c'est une attention, vraiment. Ça fait chaud au cœur.
Il y a des profs. Non, mais... Ouais, ils s'en fichent un peu, genre... ils nous donnent un travail et pendant toute l'heure, ils restent à rien faire. Si, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'écrit, ça devient lassant au bout d'un moment, du coup... Elle nous fait très souvent des expressions orales et c'est... j'aime bien ça.
Tout le monde répète « where »,«
where »,«
war »,«
war »,«
worn ». Where, what, when. Ok.
Alors moi-même, j'ai eu des professeurs extraordinaires, des professeurs qui ont vraiment laissé des traces. Et je me souviens tout particulièrement de ma professeure d'anglais, Madame Bernard, bien sûr, au collège. J'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai eu 4 ans de suite. Comme on l'admirait, on avait envie, voilà, d'être à la hauteur de ce qu'elle nous demandait. Et ma professeure d'anglais m'a donné envie de devenir professeure. Il ne faut pas jouer que sur l'affectif, bien sûr, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Les élèves, ils marchent beaucoup à l'affectif. Moi, je pense que je suis une enseignante un peu maternante. J'essaie de penser que c'est avant tout des enfants. Ce sont des élèves, mais ce sont des jeunes, avec leurs bons jours, leurs mauvais jours, leurs erreurs.
Finalement, c'est avant dosage entre de l'affectif et de l'autorité.
Exactement. Ça reste une classe et il y a des règles. Donc, on a beau être bienveillant, mais il y a un moment, non. Si on n'a pas fait son travail, ben, on va être sanctionné. Si on a mal fait, on va être sanctionné. Je ne vais pas mettre des bonnes notes aux élèves quand ils ne les méritent pas, ça non. La démagogie, non, ça ne marche pas. Et je pense qu'en plus, les élèves le perçoivent très bien. L'enseignant qui est démagogique, ils le perçoivent. Et c'est leur marquer de l'attention que de leur donner un cadre. Et c'est ce que je fais aussi quand je me fâche avec eux, le plus souvent individuellement. Je leur explique que si je me fâche et si je ne suis pas contente, c'est aussi une marque d'intérêt que je leur porte. C'est un âge quand même très particulier. Il peut être épouvantable avec vous pendant 2, 3, 4 ans au collège. Et puis vous pouvez le recroiser, il sera en première année d'université. Et il viendra vous dire bonjour et vous dira comme c'était bien de travailler avec vous. Donc c'est très paradoxal.
Reportage auprès d'une enseignante très aimée par ses élèves hein, qui n'ont pas peur d'être accusés d'excès de zèle. Comment vous réagissez à l'écoute de ce reportage, Lucien Marbeuf ?
Ça me parle pas mal. J'adhère complètement à ce que dit cette prof d'anglais. Et ce qui est emblématique, je trouve, dans les propos de ses élèves, c'est la finesse de perception qu'ils ont de leur professeur. Quelque part, je me dis que Les élèves ont une, que ce soit en secondaire ou en primaire, hein, ont une perception de nous, enseignants, beaucoup plus fine que nous-mêmes, on ne l'aura jamais. C'est-à-dire que on peut prêcher ceci, vouloir cela, finalement, nos actes parlent pour nous et eux perçoivent très 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 finement la manière dont on se comporte.
Vous dédiez-vous en votre livre « Vie ma vie d'instit » à votre instituteur de CM1. En quoi vous a-t-il inspiré cet instituteur-là ?
Je pense que c'est un... Bah, vous en parliez dans votre introduction, c'est cet instit qui sortait un peu de l'ordinaire, qui était un peu original, un peu décalé, un peu à côté. Je me souviens que cette année de CM1, on a fait des choses qui, moi, me paraissaient extraordinaires à l'époque et aujourd'hui encore enchantent mes souvenirs. On a fait des grandes séances de sport extrêmement élaborées, de patins à roulettes. On a appris à faire de la flûte irlandaise. On a créé une mascotte pour la classe à laquelle on a donné un nom. On a floqué nos t-shirts avec. Bref, on a fait comme ça des tas de projets qui ont embelli une année qui, par ailleurs, du point de vue des apprentissages, s'est révélé très solide.
Un enseignant très atypique, du coup.
Okay. 7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Et nous sommes tout de suite en ligne avec Mylène Moison. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Canada. Vous avez publié Dans une classe à part, histoire de profs inspirants. Pour vous, en fait, certains professeurs sont des héros du quotidien à l'origine de petits miracles. Pourquoi est-ce que vous avez voulu leur consacrer un livre?
L'origine de ce livre-là tient d'une chronique que j'ai publiée il y a quelques années sur un professeur qui avait modifié la note d'un élève de façon très importante. Là, c'était un enfant de 16 ans qui était en fin de parcours scolaire au secondaire ici. Et le jour du dernier examen de français, ses deux parents étaient devant le tribunal pour ne pas avoir sa garde. Donc, évidemment, cet enfant-là n'avait pas du tout la tête à son examen de français qu'il a échoué lamentablement, mais c'était un très bon élève. Donc, tout au long de l'année, il avait très bien réussi et le professeur a écouté son instinct et au lieu de lui mettre 12% la note qu'il méritait, lui a mis 90%, ce qui a permis à l'élève de compléter son année et d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Et plusieurs années plus tard, cet élève-là a contacté le professeur pour lui dire « Merci, si ce n'était pas de vous, j'aurais abandonné l'école et je vous apprends qu'aujourd'hui, j'ai eu ma maîtrise à l'université. » Donc, c'était un peu la première histoire que j'avais racontée et j'ai reçu des dizaines et des centaines de messages de professeurs qui, eux aussi, écoutaient leur instinct, qui enseignaient d'une façon différente et qui se sentaient peu encouragés à le faire. Donc, je me suis dit qu'il y avait un besoin de laisser la parole à ces professeurs-là qui sont dans leur classe des héros et qui écoutent leur instinct et qui sont à l'écoute de l'enfant et qui ont à cœur là, la réussite là, de leurs élèves.
Et vous donnez aussi l'exemple d'un professeur d'origine haïtienne qui a donc rejoint le Québec et a enseigné dans un lycée d'un quartier très défavorisé. Vous lui avez demandé « Vous faites quoi pour vous faire écouter ?» et il vous a répondu « Je les écoute, j'écoute mes élèves.
» Tout simplement. C'est une magnifique histoire. Wilfrid Michel, lui-même haïtien, dans un quartier où il y a vraiment une proportion assez élevée d'haïtiens. Et lui a grandi en Haïti où le métier de professeur est très peu valorisé. Et il est arrivé ici et il a conservé ce métier-là qu'il exerce dans un quartier très défavorisé. Et lui a tout de suite constaté que si on ne prenait pas le temps d'écouter les enfants en début d'année, c'était impossible de transmettre la matière. Lui est professeur de mathématiques et la première année, il a essayé de tout de suite ouvrir les livres et transmettre des notions de mathématiques. C'était un échec cuisant. Et l'année suivante, il a pris quelques semaines, presque un mois, où il n'a pas parlé de mathématiques, pas du tout. Il a parlé aux élèves, savoir leur famille, ils sont combien d'enfants, est-ce qu'ils dorment la nuit, est-ce qu'ils mangent le matin, des éléments qui sont très importants pour un professeur pour savoir à qui il a affaire. Et à partir du moment où il connaît tous ses élèves, donc lui, il a à peu près 90 élèves par année, à partir du moment où il connaît chacun de ses élèves, à ce moment-là, il ouvre les manuels de mathématiques et ça se passe très bien parce que justement, il y a une relation de confiance qui s'est établie. Et dans son cas, à lui, c'est une relation qui est presque que parentale. Il y a vraiment une relation extrêmement proche avec ses élèves. Et ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que lorsque M. Michel assiste aux réunions de département. Alors, tous les professeurs se parlent de certains élèves qui posent problème. Et chaque fois qu'un nom émerge là, de ces réunions-là comme étant un cas problème, ben dans la classe de Wilfrid Michel, c'est souvent l'élève qui est le plus assidu, qui est le plus respectueux. Donc, ça montre à quel point un enseignant qui est à l'écoute peut faire une différence, là.
Et d'ailleurs, ce même professeur vous dit qu'il considère ses élèves comme ses propres enfants, en fait. Ce qu'on voit d'ailleurs dans toutes les histoires que vous évoquez dans votre livre, c'est qu'il y a un vrai lien, en fait, entre ces enseignants et certains de leurs élèves. Et en fait, ce ne sont pas toujours les meilleurs élèves.
Oui, c'est surtout dans le cas des élèves là, qui posent problème ou qui cadrent moins là, dans la formule de l'école. Mais effectivement, c'est des professeurs qui arrivent là, à tendre la main vers certains enfants. On parle beaucoup des réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Et c'est même des professeurs qui vont se permettre d'avoir une relation parfois par message, où ils vont s'entretenir. Il y a des confidences qui vont être faites là, de certains enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, on veut bien croire que toutes les familles sont fonctionnelles et que tous les parents sont aptes à éduquer leurs enfants, mais dans le cas d'élèves qui posent problème, le problème est souvent, prend racine souvent dans la famille. Donc, le professeur, dans ces cas-là, devient un adulte très signifiant, donc un modèle, le modèle que l'enfant n'a pas à la maison. Je raconte l'histoire dans le livre de Mme Caroline, qui, elle, est intervenue directement dans un cas particulier où il y avait de la violence familiale, où les enfants n'avaient pas ce modèle de famille ou de parents sains. Et à ce moment-là, là, c'est extrêmement important d'avoir un professeur qui peut pallier cette situation-là ou ce manque-là et donner un modèle ou une marche à suivre à l'enfant et lui faire comprendre qu'il peut avoir confiance en lui et qu'il vaut quelque chose.
Et qu'est-ce qui est commun, selon vous, à tous les enseignants que vous avez rencontrés pour ce livre?
Cette relation-là humaine, cette écoute. Il y a vraiment un amour de l'enfant, il y a un amour du métier, il y a une compréhension de l'importance du rôle du professeur. Eux, quand ils sont dans leur classe, ils savent, ils sentent toute l'importance qu'ils ont dans la vie de ces enfants-là. Ils ne font pas seulement suivre un programme, ils ne font pas seulement transmettre des connaissances. Parce que, dans le fond, le rôle du professeur a changé à l'époque où il n'y avait pas les technologies, où les connaissances n'étaient pas aussi disponibles. Mais le professeur, le maître, était un peu le dépositaire du savoir. Ce n'est plus le cas maintenant. Le professeur a plus ce monopole-là du savoir. Alors, il doit plutôt être une bougie d'allumage. Il doit donner le goût d'apprendre aux enfants. Et ça, c'est un défi qui est très, très difficile aujourd'hui parce que l'enfant est tellement sollicité, l'enfant est tellement stimulé que le professeur doit arriver à créer ce contact-là pour faire comprendre à l'enfant qu'il doit apprendre et qu'il doit aller vers le savoir. Et ça, c'est là où ces professeurs-là là, sont vraiment, vraiment très habiles.
Et c'est une nouvelle responsabilité qui incombe donc à ces professeurs. Merci Mylène Moison, journaliste québécoise, auteure du livre « Dans une classe à part, histoire de profs inspirants » aux éditions La Presse. Merci.
Merci.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Lucien Marbeuf, que vous évoquent ces histoires venues tout droit du Canada?
Ben je vois que finalement enseigner, c'est pareil partout sur la planète. Et ça revient à quelque chose d'absolument essentiel qui est une part fondamentalement humaine. Et je pense à ce professeur haïtien qui mettait un point d'honneur à prendre le temps qu'il fallait pour connaître chacun de ses élèves. Il me semble que c'est très 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 important de connaître ses élèves individuellement, chacun, c'est son caractère, ses forces, ses faiblesses, sa personnalité. Et à partir de là, on peut construire quelque chose dessus.
Vous restez avec nous, Lucien Marbeuf, pour parler de ces professeurs qui nous inspirent. On reviendra sur ce qui fait d'eux de bons enseignants. Se souviennent-ils aussi des élèves qu'ils ont pu marquer? Les voisins, les voisines, on se retrouve juste après le flash dans 3 minutes.
Sol majeur. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour donner corps et voix à ces professeurs qui laissent sur nous une trace dont on ne se déferra certainement jamais. Héros anonymes d'une année qui restent dans nos mémoires pour toute une vie, hein, même une fois devenus adultes. On en parle avec Lucien Marbeuf, instituteur, serial blogueur en dehors de ses heures de classe. Et puis nous sommes en ligne avec Vincent Rémy, rédacteur en chef à Télérama. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit le livre « Un prof a changé ma vie », 21 personnalités témoignent à la rencontre de personnalités de la culture, du monde politique, hein, comme Nicolas Hulot, Michel Rocard, Christian Lacroix, pour ne citer que. Chacun vous raconte en fait un souvenir, vous dresse le portrait d'un prof qui a laissé sur eux une empreinte. Pourquoi est-ce que vous êtes allé recueillir ces souvenirs-là précisément ?
J'ai eu un rapport à l'école problématique, je n'ai pas un cancre. Je laisse à Daniel Pénac, qui a signé la préface de mon livre, c'est l'honneur d'avoir été un cancre brillant, mais je rêvais d'être ailleurs qu'à l'école. Je voulais être bohémien, saltimbanque, je voulais voyager. J'étais à Nantes dans les années 60, j'étais en CP, et j'ai eu comme institutrice une mademoiselle Guillaume Verne, dont mes parents me disaient qu'elle était la petite fille de Jules Verne. Je peux pas dire qu'elle a changé ma vie, mais elle m'a fait très très petit, je crois, rêver de voyage, rêver d'aventure, que j'ai pas trouvé à l'école, parce qu'après ça a été, je suis allé de catastrophe en catastrophe, et j'ai quitté le lycée en fin de première, j'ai pas fait de terminale, voilà, mais bon.
Ouais, vous n'aviez pas un profil très scolaire.
Non, pas vraiment.
Et alors pourquoi s'intéresser aux professeurs qui ont marqué d'autres ?
Voilà, la deuxième raison, c'est comprendre pourquoi certains passent à côté de l'école et pas d'autres. Je suis journaliste, donc j'aime les rencontres et j'aime qu'on me raconte des histoires. Or, je trouve que les histoires d'école, de relations maître-élève, ce sont souvent des relations romanesques. Et puis alors, il se trouve que, bon, je me suis raccroché aux branches de l'école très tardivement et que je me suis mis au boulot à 20 ans. Vraiment, tout un été, j'ai bossé, potassé, je voulais venir à Paris et j'ai passé le concours de Sciences Po, je l'ai réussi et j'ai eu comme prof un certain Éric Arnoux. Cet Éric Arnoux s'est révélé être plus tard Éric Orsena, qui était un prof d'économie absolument remarquable et qui avait pour principale caractéristique de faire voyager. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore écrit l'histoire du coton, ni celle de l'eau, ni celle de... Mais c'était déjà un prof avec lequel on voyageait. Et il nous fait parler de l'économie comme d'un voyage, comme d'une aventure.
Et il est devenu l'écrivain français qu'on connaît.
Voilà.
Dans votre livre, vous racontez l'histoire de Sophia Aram, hein, humoriste française originaire de Trappes dans les Yvelines. Et elle, en fait, elle rend hommage à un professeur de sport, d'éducation physique et sportive, qui, selon elle, a fait bifurquer sa vie.
Absolument, ouais. Je tenais à comprendre pourquoi tant d'élèves échouent à l'école. La plupart viennent de milieux populaires, souvent de milieux d'immigration aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais chercher des gens... pas d'héritiers, pas des fils d'héritiers, mais des enfants d'ouvriers comme Philippe Claudel ou Aurélie Filippetti, et des gens issus de l'immigration, que sont les Juifs de l'Est, Robert Badinter et Alain Finkielkraut, qui est effectivement Sophia Aram, fille de Marocains, ou Aurélie Filippetti, fille d'Italiens, etc., etc. Voilà. Donc Sophia Aram m'intéressait aussi pour son parcours assez étonnant, venant d'une cité avec des parents plus ou moins analphabètes, et qui effectivement, elle est à Trappes, donc elle arrive au lycée, dans un lycée assez atypique, dit-elle, puisque il y avait une équipe pédagogique très très motivée. Il les faisait sortir du lycée, justement, ils allaient faire de l'escalade, de la danse folle, qui faisait plein, ils multipliaient les initiatives, les classes vertes, etc. Et puis elle se retrouve avec un certain Jean Jourdan, prof d'EPS, d'éducation physique, et qui avait travaillé sur des méthodes canadienne d'improvisation théâtrale à partir du hockey sur glace. Il avait importé ces techniques du Canada et donc Sophia Aram fait de la gymnastique avec ce professeur, mais elle fait aussi des matchs d'improvisation théâtrale sur une pseudo-patinoire avec des équipes de 6 joueurs, je crois, des garçons et des filles en maillot de hockey, avec un coach, un arbitre, etc. Et c'est le début de l'improvisation théâtrale, assez connue d'ailleurs en France, puisque Jamel aussi vient de Trappes et vient de cette école. Des centaines d'élèves ont été formés à l'improvisation théâtrale.
Et donc ce professeur a en fait inspiré clairement Sophia Aram dans la voie qu'elle a empruntée depuis.
Évidemment, ouais, absolument. Elle dit qu'effectivement, sans lui, lui, elle voulait être journaliste, elle. Donc sans lui, elle serait devenue journaliste, voilà.
Et non pas humoriste. Vous revenez aussi sur une histoire très touchante, celle de Scholastique Mukasonga, écrivaine rwandaise, qui a remporté le prix Renaudot en 2012 pour son livre Notre-Dame du Nil. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire-là? Elle raconte sa rencontre avec un instituteur, Félicien, qui lui fait découvrir la langue française.
Ce qui m'a d'abord touché dans la... C'est d'abord l'immense talent de Scholastique Mukasonga que j'ai découvert à travers Notre-Dame du Nil, donc, qui était sorti en 2012 chez Gallimard. Après, je me suis lancé dans la lecture de ses premiers livres qui sont plus autobiographiques. Et effectivement, j'ai découvert l'histoire de Félicien, qui sont absolument bouleversantes, puisque les parents de Scholastique, 20 ans avant le génocide, ont eu l'intuition que pour sauver les enfants, il fallait qu'ils apprennent la langue française. Donc, Scholastique Mukasonga et sa famille avaient été déportés de l'ouest du Rwanda, une partie très florissante, on décrit un peu la Suisse de l'Afrique.
Pour fuir les pogroms qui commençaient déjà à l'égard des Tutsis.
Pour fuir les pogroms, ils avaient été déportés. Ils fuyaient pas, ils ont carrément été déportés dans le Bugesera, région très hostile, proche du Burundi, du sud du Rwanda. Et là, elle doit aller dans la ville de Nyamata, elle doit faire des kilomètres à pied tous les matins. Et là, l'attend le maître, Félicien, très inquiet, forçant les élèves à ne pas traîner en route, sur les chemins, par peur des génocidaires. Il y avait un camp de soldats sur le chemin. Et donc, ce Félicien essayait de lutter contre la peur, mais pas seulement. Il avait un livre, dit-il. Il avait un livre qui s'appelait « Matin d'Afrique » et qui ouvrait aussi les élèves sur l'imaginaire. C'est ça qui est intéressant. Ce « Matin d'Afrique », en fait, était un livre qui venait du Niger ou du Mali et qui racontait une autre Afrique, qui raconterait l'Afrique des baobabs et du fleuve, et qui n'était pas du tout l'Afrique qu'elle connaissait. Donc elle disait « Grâce à ce livre, nous pressentions que le monde était plus vaste que nous pouvions l'imaginer. » Et puis surtout, elle dit « Ce Félicien nous donnait un avenir. On avait le droit de se projeter dans le futur. On n'était pas seulement des cafards, comme disaient les génocidaires, parce que Félicien disait, pour certains, vous serez ceci, pour d'autres, ça sera ceci.
Il parlait du futur, en fait, avec ses élèves.
Il parlait à la fois de l'ailleurs et du futur. Il disait, vous êtes des enfants avec un avenir et non des petits cafards promis à mourir.
Et elle vous dit d'ailleurs, on entrait dans la salle de classe, on pénétrait dans un autre monde.
Absolument, on ne peut pas mieux dire.
Merci Vincent Rémy, journaliste, auteur du livre « Un prof a changé ma vie, 21 personnalités témoignent », publié chez Hachette. Lucien Marbeuf, que pensez-vous de tout ça? On a parlé d'ouvrir à l'imaginaire aussi, c'est aussi peut-être un rôle qu'un enseignant peut avoir, peut se donner en tout cas.
Oui, ouvrir à l'imaginaire et dans les propos de Vincent Rémy, ce qui est frappant finalement, c'est qu'on a le sentiment que quelque part des élèves ont été mis en phase avec eux-mêmes, un peu comme si la rencontre avec un professeur leur avait permis finalement de se rencontrer eux-mêmes et de commencer à croire en eux et aux potentialités qui étaient les leurs. Et ça peut passer par l'imaginaire, a fortiori dans le cas d'artistes, puisqu'il s'agit beaucoup d'artistes dans le livre de Vincent Rémy.
Comment vous efforcez d'être un bon instituteur? Qu'est-ce que ça veut dire être un bon instituteur pour vous?
Bon, on en a un peu parlé déjà, ça commence par le fait de connaître très très bien ses élèves et dans l'élève connaître l'enfant, ce qui veut dire également accepter qu'il arrive avec ce qu'il est dans la classe. Et puis, je pense qu'il est assez important également d'arriver à la fois travailler avec un groupe classe et avoir conscience que dans ce groupe, il y a des individus. Et on est sans arrêt dans cette ambivalence de gestion d'un groupe qui doit avancer ensemble, mais en prenant en compte tout le monde individuellement dans ce qu'il est pleinement.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous pendant ces 12 années déjà d'enseignement ?
Je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup de classes, beaucoup d'écoles en France, ce qui est assez difficile, c'est de gérer l'hétérogénéité, surtout avec des effectifs relativement importants. Je pense que c'est ça le moins évident. Voilà. Il y a des élèves très différents les uns des autres, avec des difficultés très différentes. Et peut-être également qu'en France, on n'est pas suffisamment formé à la difficulté scolaire et à la prise en compte de toutes les particularités. Donc ça s'apprend sur le tas, c'est pas facile, et pourtant je crois que c'est décisif pour l'école à venir.
D'ailleurs, un personnage central de votre livre, c'est Kadiatou, une élève très dissipée, qui ne travaille pas au même rythme que les autres, et vous racontez les difficultés à gérer une élève comme celle-ci, vous dites voilà, on n'y est pas préparé, comment vous avez géré ce cas-là ?
Comme on peut, parce que voilà, c'était une élève J'avais un CE2 à l'époque, une élève qui ne savait pas lire, qui savait à peine écrire son nom et qui donc était fatalement complètement décalée par rapport au reste de la classe et pourtant entièrement là parmi nous. Donc évidemment impossible de faire comme si elle n'existait pas. Il faut absolument la prendre en compte et en même temps il faut tenter par tous les moyens de faire en sorte qu'elle ne prenne pas non plus la plus grande part de l'énergie parce que les autres élèves ont également besoin de cette énergie-là. Donc eh bien, essayer d'adapter des apprentissages, de faire feu de tout bois, de profiter de toutes les minutes de disponibilité et de concentration dont elle est capable. Et puis, quand il y a orage, laisser passer l'orage en essayant de servir un peu de parapluie pour les autres.
Et son cas vous tourmente tellement que vous n'en dormez pas la nuit, ça vous arrive. Vous avez du mal certains soirs à être patient avec vos propres enfants. Vous culpabilisez aussi de ne pas réussir à la faire réussir. Et puis finalement, d'ailleurs, que lui arrive-t-il ? Est-ce que vous avez réussi ?
Eh bien, il faut lire le livre. Non, elle, du jour au lendemain, elle a quitté l'école. Donc c'est une histoire un peu inachevée pour moi, très frustrante. Dans le cas de personnes comme Kadiatou, on est toujours extrêmement frustré parce que tout élève qu'on n'arrive pas à faire progresser, c'est vraiment un cas de conscience. C'est pas pour rien que ça finit par nous habiter, par nous visiter la nuit. Donc beaucoup de frustration et du jour au lendemain, plus de nouvelles et plus jamais eu de nouvelles.
7 milliards de voisins, on se retrouve dans un instant après Bal de Mamako de M. Sidiki et Toumani Diabaté.
Bal de Bamako, Bal de Bamako, Bal de Bamako. J'étais dans la.
Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise. Voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali des merveilles, le mali Dieu crée la flamme. Le mali danse dans mon âme.
On y soit qui mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mali danse, au son des balles de Bamako.
C'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère.
On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
Lucien Marbeuf, y a-t-il des élèves que vous n'avez pas réussi à aider, à qui vous avez eu le sentiment de ne rien apporter en tant qu'instituteur ?
Alors c'est toujours délicat de savoir au final ce qu'on apporte vraiment aux élèves. Oui, il y en a eu, je parlais de Kadiatou, alors j'ose espérer, malgré la fin en queue de poisson, que je lui ai quand même apporté quelques petites choses. Il y en a sans doute, c'est vrai qu'on préfère penser plutôt ceux dont on a bien senti qu'on a réussi à les aider. Mais voilà, il faut accepter également de ne pas être omniscient et parfois d'échouer avec certains.
On imagine aussi que ça peut être frustrant parfois de ne pas pouvoir prendre la place des parents, qui ne sont peut-être pas des modèles à la maison, qui ne sont peut-être pas très présents.
Je suis un petit peu partagé par rapport à ça, parce qu'à la fois, il faut qu'on ait une conscience très aiguë du fait que, comme je le disais tout à l'heure, on accueille les élèves avec ce qu'ils sont, avec la part d'enfants en eux, en classe, et que c'est un peu difficile de leur demander de laisser tous leurs problèmes accrochés au porte-manteau avec leur manteau.
Vous parlez par exemple d'une de vos élèves à Alicia qui vit dans un hôtel social pendant son année de CE2.
Oui, par exemple, alors, très clairement, elle vient avec tout ce qu'elle est, avec sa gouaille, avec ses problèmes, avec sa volonté de bien faire. Voilà, donc il faut à la fois prendre l'élève comme elle est, en ayant conscience qu'on peut pas non plus pallier à tout un tas de choses qui ne relèvent pas forcément de l'école, mais sans que ça devienne pour autant une excuse. On peut de temps en temps entendre certains discours, de toute façon c'est pas de ma faute, à la maison c'est comme si, la famille est comme ça. Je crois qu'il faut absolument lutter contre ce genre de mauvais raisonnement où tout le monde est perdant, l'élève, et soit en tant que praticien également.
Ne pas laisser trop d'excuses
à l'élève. Non. Puis je crois qu'il y a toujours quelque chose à faire.
Vous êtes, avant d'être un instituteur, un être humain aussi, il y a des élèves auxquels vous vous attachez plus que d'autres chaque année ?
Oui, bien sûr. Alors on n'en laisse rien paraître. Hein. On veille bien à ne pas laisser passer ce genre de choses. Oui, forcément. Alors après, chacun en fonction de sa personnalité également. Chaque enseignant en fonction de ce qu'il est. Moi, j'ai une certaine sensibilité pour les élèves qui ont un petit truc, un petit quelque chose un peu décalé, un petit quelque chose en plus. Ces élèves qui sont pas très scolaires, qui peuvent être parfois un peu rêveurs. Je suis également très sensible aux élèves qui sont en difficulté et qui se démènent pour s'en sortir, qui peut-être travaillent le double des autres, qui essaient de lutter contre le découragement. Et moi, ces élèves-là me motivent et me donnent vraiment envie de me lever le matin et de me battre pour eux encore plus que pour d'autres.
Et si je vous demandais de nous parler d'un ou d'une élève qui vous aurait marqué en particulier ?
J'en parle également dans le livre parce que c'est des élèves dont on se souvient, notamment parce qu'aujourd'hui encore, il se trouve que, alors c'est pas une élève, mais deux élèves qui continuent à venir me voir alors qu'elles sont maintenant au lycée et qui, quand je les avais eues, alors j'avais des CE2 à l'époque, étaient deux élèves très copines et relativement fragiles, ayant très peu confiance en elles et qui avaient des difficultés assez massives dans beaucoup de domaines, et on avait passé énormément de temps à travailler ensemble. J'avais beaucoup travaillé sur la restauration de la confiance, qui est toujours un levier extraordinaire. Et voilà. Et au fur et à mesure des années qui ont passé depuis, elles sont venues me voir et je les ai vues se déployer, prendre toute leur ampleur, revenir avec des tableaux d'honneur, des félicitations, folles de joie après des conseils de classe. Monsieur Marbeuf, je suis troisième de la classe. Et c'est vrai que même si on est également conscient qu'on n'est absolument pas du tout les seuls dans cette belle réussite.
Vous y avez contribué.
Oui, dans ces cas-là, on jalouse ce petit morceau de réussite.
Il y a aussi les petits moments de victoire que vous racontez dans votre livre, comme ce jour où Lila, l'une de vos élèves qui était en grande difficulté, a la meilleure note à une dictée. Elle a fait seulement une faute. C'est un des moments qui aussi justifie autant d'investissement personnel.
Oui. D'ailleurs, à y repenser, je suis encore ému parce que ça a été un très grand moment. Une élève qui avait énormément de difficultés en dictée. Et là aussi, il y a eu énormément de travail en soutien, de travail individualisé pour travailler sur la vigilance orthographique, sur le fait de se poser des bonnes questions. Et le jour où, en effet, en corrigeant les dictées, je me suis rendu compte que non seulement elle n'avait fait qu'une faute, mais qu'elle était la seule à n'avoir fait qu'une faute, j'ai posé mon stylo, j'ai posé son cahier, et je me suis autorisé 5 minutes de rêverie et de bien-être.
Vous écrivez dans votre livre « J'ai compris ce qui me manquerait toujours. Dans la vraie vie, je n'aurai probablement jamais de nouvelles de mes élèves. Quelque chose restera donc incomplet. J'aurai participé à un vaste puzzle. J'en aurai mis tout au plus quelques pièces, mais jamais je ne verrai le résultat. Je ne sais pas quelles traces j'aurai laissées chez ces petits hommes, dans les adultes qu'ils deviendront. » Vous vous sentez responsable de ces enfants qui deviendront adultes un jour ?
Je m'en sens absolument co-responsable avec tous les autres adultes qu'ils ont croisés dans leur vie et qui ont contribué à leur épanouissement. Et les premiers élèves que j'ai eus aujourd'hui doivent avoir 21 ou 22 ans. Et dans ma tête, ils ont toujours leur visage d'enfant de 7 ans. Et je me dis qu'il y a une béance, là, qu'il y a un creux qui me laisse un peu rêveur et un peu frustré parce que je ne sais pas ce qu'ils sont devenus et ce que cette année ensemble a pu poser éventuellement comme petite graine chez ces personnes qui sont aujourd'hui des adultes.
Et chaque année, d'ailleurs, vous le racontez, vous avez du mal à lâcher prise, à laisser vos élèves rejoindre la classe supérieur, à vous faire à l'idée qu'ils vont partir, en fait, qu'ils vont vous quitter.
Oui, alors bon, je suis un peu fleur bleue, un peu cœur d'artichaut, donc ça n'aide pas dans ce métier, parce que c'est vrai que juillet, c'est un peu le mois des grands adieux et des effusions et des grands déchirements. Et j'ai beaucoup de mal à les laisser, surtout qu'ils ont le mauvais goût de partir au compte-gouttes les uns après les autres. Et puis, dans le même ordre d'idée, c'est vrai qu'en début d'année suivante, je mets un certain temps à m'attacher aux nouveaux élèves. Il y a une phase d'apprivoisement, de domestication mutuelle qui, en fait, au bout de quelques semaines, fait d'eux à nouveau pleinement les élèves auxquels je m'attache énormément pour l'année.
Il faut le temps de les apprivoiser, en fait.
Exactement.
Une de vos collègues, et ça vous fâche d'ailleurs, vous dit d'un élève, tu ne pourras rien en tirer. Qu'est-ce qui vous énerve dans ce type d'affirmation ?
C'est une sentence, ça veut dire, on peut le mettre à la poubelle, il ne sert à rien, tu ne sers à rien, on ne sert à rien et il ne vaut rien. Et moi je sais que c'est quelque chose qui me révolte de la part d'un enseignant, je crois que c'est ce qu'un enseignant peut énoncer de pire au sujet d'un élève, tu n'en tireras rien. Et moi je sais que le jour où ma collègue m'a dit ça, je me suis dit, on verra, on verra. C'est certainement pas toi qui peux le dire et on va voir si cet élève n'a pas plein de ressources que tu n'as pas vues et que tu n'as pas imaginées.
Votre métier, instituteur, enseignant, est souvent malmené, vilipendé. On blâme les enseignants pour leurs vacances, qui seraient trop longues aux yeux de certains. On leur reproche leurs courtes semaines de travail, prétendues courtes semaines de travail. Bref, on les voit comme des fainéants. Comment vous vivez ces critiques-là qui persiste ?
Eh ben, pas très bien. Pas très bien, parce que, bon, tout en étant assez lucide, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où on jalouse beaucoup les uns, les autres, les acquis des uns, les privilèges des autres. Bon, cela mis à part, c'est vrai que ça vient de personnes qui fonctionnent sur la base de beaucoup de clichés. Encore une fois, s'il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui arrive à 8h30, qui repart à 16h30 le soir, avec 2 heures de pause au milieu... À la limite, c'est pas besoin de discuter. C'est
en ayant terminé sa journée de travail.
Ayant fini sa journée de travail, en rentrant tranquillement chez lui, regarder la télé, je crois qu'il n'y a pas de discussion même possible parce que on est dans de tels clichés que c'est pas... Voilà. Je suis partagé parce que à la fois, j'ai toujours cette envie de dire mais non, assieds-toi, parlons un peu, je vais t'expliquer. Voilà, en fait, tu crois que c'est comme ça, mais pas du tout. Ça se passe plutôt comme ci, ça se passe plutôt comme ça. Et puis, ça peut être des discussions qui sont des dialogues de sourds parce que finalement, pour accepter de changer d'avis, il faut commencer par vouloir écouter l'autre. Et on n'est pas toujours dans une société où l'écoute de l'autre est valorisée.
Vous avez aussi été très agacé par la déclaration de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, selon laquelle les enseignants ne travailleraient que 6 mois dans l'année. C'était pendant les primaires des Républicains.
Oui, alors à titre personnel, moi ça m'a plutôt fait rire parce que c'était tellement énorme. Que j'en ai plutôt souri. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de marques d'humour de la part des profs sur les réseaux sociaux et sur Internet. Non, voilà, simplement, ce calcul omettait tout simplement les week-ends. C'est-à-dire que, il faut imaginer que dans les 6 mois qui restent, il y a tous les week-ends. Voilà.
Oui, et pour un salarié, je crois que c'était quoi, 8 mois ?
Oui, voilà, si on faisait le même calcul pour un salarié lambda, ça reviendrait à travailler 8 mois sur 12.
Sauf que là, on ne compte pas le temps passé à préparer les cours à la maison.
Et non, comme d'habitude.
Dans votre livre, vous racontez aussi une discussion avec un homme rencontré au hasard d'un barbecue entre amis. Alors, il vous fait beaucoup de reproches, dont on a parlé. Il vous en veut aussi de ne plus incarner un modèle de société. Il vous dit, autrefois, on avait le curé, le médecin, l'instit dans le village. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un de ces piliers-là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est son discours qui est paradoxal, parce que quelque part, le respect dont il faisait preuve pour cet instit de son souvenir, eh bien précisément, il n'en fait absolument plus preuve aujourd'hui pour l'instit que je suis dans notre discussion. Or, il me semble que c'est là que se joue le statut du métier d'enseignant, et quand en effet on commence à perdre le respect, alors que ce soit de l'enseignant ou d'un autre métier, il ne faut pas s'étonner que ce métier soit dévalorisé. Alors après, on peut constater qu'il est dévalorisé et s'en plaindre, mais il faut qu'il ait conscience qu'il participe de cette dévalorisation.
Et il vous accuse aussi d'ailleurs, comme beaucoup, d'être responsable en tant qu'enseignant de la baisse du niveau. Et c'est un sujet sur lequel vous êtes sensible, je crois. On peut le lire en tout cas sur votre blog. Comment vous vivez cette affirmation-là ?
Mal. Il n'y a pas très longtemps encore, on a eu les résultats alors, de PISA qui n'ont pas été si mauvais que ça, mais un peu avant de TIMSS, l'étude où il s'avère qu'on a confirmation que les petits élèves français sont mauvais en maths. Mais je me raccroche à l'idée que ce n'est pas tant les enseignants qui sont jugés dans ce type d'études qu'un système éducatif dans son entier. J'ai trop conscience du travail que produisent mes collègues et modestement du travail que je produis aussi pour penser qu'on est entièrement responsable de tout. On ne fait certainement pas tout bien, mais il doit y avoir d'autres explications, forcément, parce qu'il y a tellement de travail, tellement de volonté de bien faire, tellement d'efforts, tellement d'investissements de la part de dizaines, de centaines de milliers d'individus, que si en plus ils sont responsables de l'échec, alors c'est qu'il y a une aberration quelque part.
Un vrai investissement en tout cas de nos enseignants. Merci à vous Lucien Marbeuf, instituteur depuis 12 ans. Vous pensez rester instituteur longtemps ?
Ma foi, chaque année qui passe me conforte dans ma joie de vivre ce métier, donc pourvu que ça dure.
Je rappelle le nom de votre blog hein, pour les curieux, Instit Humeur. On va le mettre en lien sur notre page internet 7 milliards de voisins. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Camille Nérand. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. La semaine prochaine, 7 milliards de voisins, nous vous proposons une semaine de rediffusion de nos meilleures émissions avec Emmanuel Bastide. Et lundi, j'ai plusieurs métiers dans ma vie, liberté ou précarité. Si vous cumulez plusieurs emplois, professeur le jour, chauffeur de taxi la nuit, que révèle cette économie des petits boulots et des petits revenus cumulés ? À qui profite ce système D ? Ne manquez pas notre émission de lundi. L'équipe de 7 milliards de voisins vous souhaite une excellente fin d'année.